VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 18 septembre 2023. Au Mali, les rebelles Touareg ont revendiqué le contrôle de deux bases militaires situées dans la ville de Léré après des affrontements avec l'armée. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso créent l'alliance des États du Sahel qui assurera la défense collective aux populations des États signataires.
Il y a effectivement un risque de confrontation directe entre une partie de la CDAO dont on peut redouter les conséquences à la fois sur la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la zone.
Sedi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel, nous situera sur les enjeux de la nouvelle organisation dans la partie magazine. Un rapport de l'Institut d'études de sécurité accuse les groupes djihadistes de s'être enrichis entre 2019 et 2021 en Côte d'Ivoire grâce à l'orpaillage illicite. En Éthiopie, les hostilités ont pris une ampleur nationale, alerte les experts de l'ONU. L'Iran et les États-Unis ont procédé aujourd'hui au Qatar à un échange de prisonniers. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les rebelles Touareg ont revendiqué le contrôle de deux bases militaires situées dans la ville de Léré, dans le nord du Mali, où de nouveaux affrontements ont opposé hier dimanche l'armée et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le point avec Eric Manirakiza.
Après avoir dit la semaine dernière s'être brièvement emparé d'un camp de l'armée à Borem, ville située à 90 km à peine de la ville stratégique de Gao, pour repartir avec des armes et véhicules, la CMA a annoncé hier dimanche, via son porte-parole, la prise de deux camps à Léré. Aucun bilan des affrontements n'a été évoqué par la CMA ou par l'armée. Dans un communiqué de l'état-major général des armées, le colonel Souleymane Dembélé indique que les militaires maliens sont mobilisés pour défendre les positions de l'armée et maintenir la paix et la sécurité des populations. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours, les deux camps étant désireux de gagner du terrain dans des zones laissées vacantes par les troupes de l'ONU dans le centre désertique et dans le nord du pays.
Des groupes djihadistes se sont enrichis de 2019 à 2021 dans le nord de la Côte d'Ivoire grâce à des activités illicites, mais ont été depuis en partie repoussés hors des frontières ivoiriennes. C'est ce qu'a affirmé un rapport de l'Institut d'études de sécurité publié ce lundi. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Dans son rapport, l'Institut d'études de sécurité affirme qu'entre 2019 et 2021, des groupes extrémistes violents ont mené des incursions sur le territoire ivoirien, une série d'attaques contre les forces de défense et de sécurité et des actes d'intimidation à l'encontre de la population. L'ISSS ajoute que durant cette période, le nord-est de la Côte d'Ivoire a servi de théâtre d'opérations et de zones de refuge, d'implantation, de financement, de recrutement pour ces groupes qui se sont surtout enrichis par l'orpaillage illégal et l'économie du bétail. Selon le rapport, les troupeaux sans surveillance sont particulièrement ciblés et les voleurs de bétail bénéficient parfois de la complicité de bouviers en échange d'une rétribution financière. L'Institut suggère aux autorités ivoiriennes de renforcer les dispositifs de contrôle d'origine et de traçabilité du bétail, parfois transporté jusqu'à Abidjan, et de réguler le secteur de l'exploitation aurifère artisanale en réduisant les coûts d'obtention des autorisations d'exploitation. De fin 2021 à juillet 2023, aucune attaque significative n'a été relevée en Côte d'Ivoire, constate l'ISSS.
En Éthiopie, les affrontements armés ont pris une ampleur nationale et de graves violations des droits humains ont continué d'être commises après l'accord de paix dans le nord du pays. C'est ce qu'indique ce lundi un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport, Mouamadou Mfa.
Cette commission d'experts, dont le rapport doit être présenté devant le Conseil des droits de l'homme, indique que si la signature de l'accord a permis de faire taire les armes, elle n'a pas résolu le conflit dans le nord du pays, en particulier dans le Tigré, et n'a pas apporté de paix globale. Les hostilités en Éthiopie s'étendent désormais à l'échelle nationale, avec des violations significatives en augmentation, notamment dans la région d'Amara, mais également dans celle de Romia et ailleurs, déclare le président de la commission, Mohamed Chan Othman, dans un communiqué. Selon la commission onusienne, les troupes érythréennes qui étaient venues soutenir l'armée éthiopienne et les membres des milices Amara continuent de commettre de graves violations au Tigré, notamment des viols et des violences sexuelles systématiques sur les femmes et les filles. La commission pointe également les niveaux élevés d'impunité dans le pays et s'inquiète de la sécurisation croissante de l'État par l'imposition d'état d'urgence et l'établissement des postes de commande militarisés sans contrôle civil, des structures qui, selon la Commission, s'accompagnent souvent de graves violations.
L'ONU a annoncé aujourd'hui que ses agences s'efforçaient de prévenir la propagation de maladies dans la ville libyenne de Derna, sinistrée par des inondations où des secouristes cherchent toujours les corps de milliers de disparus présumés morts. Dans cette ville de 100 000 habitants, bordant la Méditerranée dans l'est du pays, les inondations provoquées le 10 septembre par la rupture de deux barrages sous la pression des pluies torrentielles déversées par la tempête Daniel ont fait près de 3 300 morts selon le dernier bilan officiel provisoire et laissé un paysage de désolation rappelant un champ de bataille. Le président américain Joe Biden s'est entretenu ce lundi avec le roi du Maroc, Mohamed VI, pour lui présenter ses condoléances à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé ce pays d'Afrique du Nord au début du mois, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Les deux dirigeants ont discuté de la volonté de Washington de contribuer aux efforts de reconstruction. Le patrimoine de l'île touristique de Djerba dans le sud de la Tunisie a été inscrit ce lundi sur la liste mondiale de l'UNESCO, a annoncé l'organisation. La Tunisie compte désormais 9 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les médinas de Tunis et Sousse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5 ex-prisonniers américains en Iran sont arrivés à Doha en provenance de Téhéran en application d'un accord d'échange de détenus avec les États-Unis conclu avec la médiation du Qatar. Les précisions avec Dili Diko.
L'avion qatari a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Doha vers 17h40 heure locale. À bord de l'avion, 5 prisonniers et 2 membres de leur famille, accompagnés par l'ambassadeur du Qatar en Iran, selon une source proche du dossier. Les anciens prisonniers sont descendus de l'appareil et ont été accueillis sur le tarmac par des accolades. Au préalable, un transfert de fonds iranien gelé en Corée du Sud d'un montant de 6 milliards de dollars a été annoncé à Doha et confirmé par l'Iran. Ce transfert fait partie de l'accord qui prévoit aussi la libération par les États-Unis de 5 prisonniers iraniens. 2 d'entre eux sont arrivés aujourd'hui à Doha pour retourner en Iran. Les 3 autres ex-prisonniers libérés ne souhaitent pas aller en Iran. Pour certains experts, cet accord témoigne d'un léger apaisement des tensions entre l'Iran et les États-Unis, mais pas au point de régler le dossier du nucléaire iranien. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé ce lundi de nouvelles sanctions contre l'Iran.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a dit espérer aujourd'hui que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis conduirait à une baisse des tensions. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré aujourd'hui à New York le vice-président chinois, Han Zheng, alors que Washington et Pékin redoublent d'efforts pour apaiser une relation tumultueuse. La rencontre s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies et elle intervient au lendemain de la réunion à Malte, samedi et dimanche, entre le conseiller à la sécurité nationale Joe Biden, Jake Sullivan, et le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Les relations bilatérales restent encore tendues, les différends commerciaux, l'expansion chinoise en mer de Chine méridionale et la question de l'île démocratique autonome de Taïwan restant des pierres d'achoppement. Le gouvernement ukrainien a limogé aujourd'hui 6 vice-ministres de la Défense, 2 semaines après la nomination du nouveau ministre de la Défense, Rustem Umerov. Rustem Umerov a été nommé au poste de ministre de la Défense au début du mois, en remplacement d'Oleski Renikov, nommé en novembre 2021. Oleski Renikov est parvenu à obtenir des milliards de dollars d'aide militaire occidentale depuis l'invasion russe de février 2022, mais son ministère a été éclaboussé par des allégations de corruption qu'il a qualifiées de calomnieuses. Et puis Kiev a annoncé aujourd'hui avoir porté plainte devant l'OMC contre 3 pays de l'Union européenne, Pologne, Slovaquie et Hongrie, qui ont prolongé leur embargo sur les importations de céréales ukrainiennes malgré la levée des restrictions décidées par Bruxelles. Et puis Charles III, le roi d'Angleterre, entamera ce mercredi en France une visite d'État de 3 jours. Elle interviendra 6 mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites pour ce qui devait être sa première visite officielle à l'étranger. En tant que roi, Charles III prononcera un discours devant les parlementaires au Sénat durant lequel il devrait s'exprimer en partie en français, comme en mars dernier où il avait parlé en allemand devant le Bundestag à Berlin. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
En RDC, la société civile dénonce un contrat minier conclu entre la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sekima, et le groupe Emirati Primera, qui accorde à ce dernier un monopole sur l'exploitation de l'or dans les zones concernées. Pour les ONG, ce contrat est défavorable au pays et aux autres exploitants congolais de l'or. Elle demande au président Félix Tshisekedi la mise en place d'une commission pour l'évaluer et examiner les revendications des entités administratives et les plaintes des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema qui s'estiment être lésées. Alors que les investisseurs et les négociants pétroliers se concentrent sur la hausse du prix du pétrole qui a frôlé les 100 dollars le baril, certaines qualités de pétrole brut s'échangent déjà au-dessus de ce seuil, ce qui laisse présager un resserrement de l'offre. En Afrique, le prix du brut nigérian Keibo a dépassé les 100 dollars le baril ce lundi. Pour terminer, en Ouganda, la dette publique a baissé à 78,8 milliards de shillings, soit 47% à la fin du mois de juin, contre 78,8 milliards de shillings, soit 48,4% en juin 2022, a déclaré le ministre des Finances, Mataka Saïdia. Il assure que c'est le résultat du ralentissement du rythme d'accumulation de la dette, conformément aux engagements du gouvernement en matière de consolidation fiscale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec le deuxième tour préliminaire aller des matchs interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, les Ghanéens de Mediama assurent à domicile le vainqueur 3-1 des Guinéens de Ouroya. Succès précieux du tout-puissant Mazembe en déplacement au Malawi 1-0 face au Big Ballets. Belle option prise aussi par l'Espérance de Tunis face au Burkinabé de l'AS Douane, tout comme les Algériens du CRB Louis Dade, victorieux 3-1 en Sierra Leone contre Bo Rangers.
Le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a déjà un pied en phase de poule.
C'est suite à son succès 4-0 sur le terrain des Burundais de Bumamuru. C'est presque fait aussi pour les Tanzaniens de Nyanga qui sont allés battre 2-0 les Soudanais d'El Merrek. Pareil pour le FC Nouadhibou, vainqueur 3-0 à Bamako devant l'AS Real. Pour le coach Noum Diané du Real, son club a encore sa chance à jouer.
C'est pas fini, voilà, c'est le football. Moi, on va aller en Mauritanie. Moi, je suis énormément déçu pour plusieurs raisons. Le nombre d'occasions qu'on s'est créé pendant 90 minutes, c'est vraiment énorme, quoi.
Noum Diané, coach de l'AS Real de Bamako, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne. Tout reste par contre ouvert entre les Angolais de 1er au 2 Agosto et les Soudanais d'Al Hilal qui se sont neutralisés 0 but partout, même score entre les Rwandais d'APR et les Égyptiens de Pyramide, nul aussi, mais d'un but partout concédé à domicile par le Afia de Conakry devant le Wydad de Casablanca.
On jouera aussi le deuxième tour préliminaire aller en Coupe CAF.
Succès écrasant des Libyens de Benghazi 6-1 qui étaient face aux Rwandais du Rayon Sport. Les Ghanéens de Dreams ont battu 2-1 les Sierra Leonais de Kaloun FC. Même score en faveur des Ivoiriens d'Afad sur le terrain des Guinéens de Koya. Pour le reste, notons entre autres la belle victoire 2-0 des Djiboutiens d'Arta Solar sur les Amalek du Caire. Même score en faveur du stade malien qui recevait les Aigles Noirs du Burundi. Succès 2-1 en déplacement des Diables Noirs du Congo en Zambie contre Musa. Et puis défaite 3-1 des Cheminots de Loupopo sur le terrain des Sud-Africains de Sekoukoumé.
Athlétisme record hier pour Godard Segei à Eugene, ici aux États-Unis.
L'Éthiopienne a établi un record du monde sur 5000 mètres à Eugene dans l'Oregon lors des finales de la Ligue de Diamants. Goudaf Tesgay a fini en solitaire après avoir réussi à décrocher de son sillage la Kenyane Beatrice Achebe, faisant parler ses jambes de feu en 14 minutes 0 secondes. Elle a détruit de près de 5 secondes le record réussi par la Kenyane Faith Kipyegon à Paris en juillet.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé samedi une charte du Liptako-Gourma qui a créé l'Alliance des États du Sahel. Son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. La charte prévoit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo, agent à Paris en France, Sidi Kaba, analyse politique, auteur du livre Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous.
Face aux défis sécuritaires qui se posent à ces trois pays, il était urgent de construire une réponse transnationale. On cherchait une formule, puisque le G5 Sahel n'a pas marché, et avec cette alliance, les pays ont décidé de se mettre ensemble pour construire une architecture de défense et asseoir une démarche de solidarité, puisque, comme il est dit dans la charte, les problèmes sécuritaires de chaque pays concernent les autres pays. Et donc, je pense que c'est une sorte d'OTAN du Sahel qu'on a créé, puisque l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est aussi bâtie à peu près sur cette même architecture commune de défense et ce devoir de solidarité.
Justement, vous avez évoqué le G5 Sahel. On sait que le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Est-ce que, de fait, le G5 Sahel est mort?
Le Mali, quand même, tient une place stratégique dans le G5 Sahel. Les autres pays membres n'ont pas de continuité territoriale avec la Mauritanie si le Mali n'est pas dans le G5 Sahel. Et d'un point de vue opérationnel, à partir du moment où le Mali s'est retiré, l'ensemble des structures du G5 Sahel ont presque quasiment cessé de fonctionner. Vous avez parlé du retrait du Mali, mais le Burkina aussi avait une posture un peu ambiguë, avec un pied dedans, un pied dehors, puisque, comme vous savez, le président de transition n'est pas allée à N'Djamena pour le sommet du G5 Sahel, le dernier sommet. La création justement de cette nouvelle structure permet de construire une réponse commune avec des enseignements que l'on a pu tirer de l'échec du G5 Sahel, puisque comme on sait, le G5 n'a pas véritablement fonctionné parce qu'il reposait sur l'assistance internationale. Et là, on sent qu'il y a une démarche androgène.
Il y a la question du timing. Cette alliance arrive au moment où la CEDEAO garde sur la table l'option d'intervention militaire au Niger pour établir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum. Le Burkina et le Mali se disent solidaires du Niger et vont répliquer au cas où cette intervention-là a lieu militairement. Comment vous analysez cela?
Il est évident que, puisque la charte a été signée par le président de ces trois pays, elle rentre automatiquement en vigueur. Si aujourd'hui, il y a une attaque sur le territoire nigérien, la charte fait obligation au Burkina et au Mali de se mettre immédiatement aux côtés du Niger. Donc, il y a effectivement un risque de confrontation directe entre une partie de la CEDEAO dont on peut redouter les conséquences à la fois sur la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la zone.
Cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires et économiques entre les trois pays. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, tout en précisant que la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, puisque l'alliance est aussi militaire et économique. Comment vont cohabiter la CEDEAO et cette alliance?
La coexistence entre cette alliance et la CEDEAO ne me semble pas problématique, à condition qu'on puisse trouver des points de complémentarité. Une des faillites de la CEDEAO, à côté de l'échec à prévenir et à gérer les coups d'État, c'est aussi son absence sur le terrain sécuritaire. Le Mali, le Burkina et le Niger sont dans une situation sécuritaire assez grave, mais la CEDEAO n'a jamais pris en main ce dossier sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Elle a laissé ses États se débrouiller tout seul.
Sidi Kaba, analyste politique. Au Bénin, la diversification des énergies a de beaux jours devant elle. Diverses installations de méthanisation ont vu le jour, permettant à la population de tirer le meilleur parti des déchets qui souvent encombrent les rues et les marchés. L'obtention du biogaz à partir des épluchures de manioc et autres offre des pistes de réflexion pour de futures initiatives du genre. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Feur-Adandé.
Pas sept ans de cherté du gaz domestique dont le prix a doublé, les populations se sont tournées vers d'autres alternatives dont le biogaz. Au Bénin, de nombreuses entreprises excellent dans le secteur. C'est le cas de Biogaz Bénin qui depuis 10 ans effectue des recherches pour la valorisation des déchets animaux et végétaux. Cette structure compte à son actif plusieurs innovations. Enoch Yangar est le directeur de Biogaz Bénin.
A priori, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces déchets, mais aussi un gaz qui peut être emprisonné et dans des bouteilles pour être commercialisé. L'autre volet de l'innovation aujourd'hui avec Biogaz Bénin, c'est la possibilité de permettre à tout promoteur, tout bailleur, à tout investisseur de pouvoir suivre son ouvrage, quel que soit le nombre d'années et le lieu où se trouve l'ouvrage à distance.
Les installations pour en produire sont légion avec des propositions plus rentables aux ménages et même aux entreprises. Charles Balogun est le président de l'ONG Afrique Espérance. Il se réjouit de cette possibilité qui s'offre à tous, surtout aux femmes transformatrices de produits locaux.
L'utilisation de ces énergies, ça favorise aussi la santé de ces femmes, parce qu'avec le bois de chauffe, elles ont des problèmes respiratoires, elles ont des problèmes de santé. Mais avec l'utilisation du biogaz, tout ceci-là, ça amoindrit.
Au Bénin, il existe plusieurs associations de femmes qui évoluent dans la transformation du manioc en utilisant un biodigesteur qui produit du biogaz grâce aux épluchures des tubercules et autres déchets. Depuis qu'elles ont découvert cette technologie, le travail devient plus plaisant, selon Dr Grace Sidifokan, l'une des formatrices.
C'est une technologie abordable, facile d'utilisation. Et les dames, elles l'ont démontré. Après une petite formation, elles ont pris rapidement en main et elles l'utilisent très facilement.
Marc Gianelli est le promoteur du centre Rubine de Toffo au Bénin, un site de valorisation des déchets organiques. Pour l'entrepreneur suisse qui s'est installé au Bénin, cette énergie a de l'avenir, pourvu qu'il y ait suffisamment d'eau pour lui permettre d'évoluer.
Pour bien digérer, il faut boire en même temps. Donc le biogaz, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il est très gourmand en eau. C'est presque un ratio de moitié-moitié. Moitié de déchets, moitié d'eau. Donc c'est beaucoup d'eau qui sert à cette production. Et là, on va le voir après ça dans le dépôt. Déjà, après un ou deux jours de fermentation, le biogaz va déjà commencer à se produire. Donc ici, rien qu'avec ces deux unités, on est normalement capable d'atteindre 120 000 litres, donc 120 mètres cubes de biogaz par semaine.
En raison de l'importance de l'eau potable pour les communautés, Rubine veut aussi réaliser une dizaine de forages d'ici 2024 et les échanger contre les épluchures. Chaque kilo de déchets organiques collectés sera échangé contre 12 litres d'eau potable. Marc Gianelli pourrait de ce fait régler plusieurs problèmes environnementaux à la fois. De Cotonou, Jeanette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden se rend cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où il tentera de renforcer le soutien international à l'Ukraine, alors que de nombreux pays du Sud cherchent à attirer l'attention sur les défis du développement et d'autres crises internationales. Patsy Ouida-Kouswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, fait le point, le récit de Mouamadou Mfa.
Après sa visite historique au Vietnam et le sommet du G20 en Inde, le président américain Joe Biden échangera à nouveau avec les dirigeants du monde, cette fois à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il devrait à nouveau plaider un soutien à l'Ukraine, comme il l'a fait l'année dernière.
Cette guerre vise à supprimer purement et simplement le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, ainsi que le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit d'y assister en personne pour rallier le soutien à son pays. Il rencontrera Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi. Au-delà de l'Ukraine, Joe Biden prévoit également d'évoquer les préoccupations des pays du Sud, notamment la crise climatique, la pauvreté, le sort des réfugiés, l'inflation et la réduction de la dette. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
These are connected because the war.
Ces sujets sont liés parce que la guerre, l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie a eu des répercussions sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et d'autres formes de préjudice pour les pays du monde entier. Ainsi, mettre fin à cette guerre dans des conditions justes sur la base des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale bénéficierait non seulement au peuple ukrainien, mais à tous les peuples du monde.
pour ne pas être supplanté par le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a rencontré les dirigeants d'Asie centrale plus tôt cette année. M. Biden devrait également rencontrer les dirigeants du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU.
Nous ne considérons pas cela comme une concurrence pour l'influence de la Chine auprès de ces pays. Nous considérons que cela s'appuie sur une relation que nous entretenons déjà.
Joe Biden tiendra des réunions bilatérales en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment avec le prochain président du G20, le président brésilien Lula da Silva, et avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les États-Unis ont exprimé leur désapprobation à l'égard de la ligne dure du gouvernement Netanyahou, notamment de son projet de réforme judiciaire, qui, selon les critiques, constitue un danger pour la démocratie israélienne.
Le président Joe Biden dit se concentrer sur les choses que veut le peuple américain et non sur le théâtre politique. La semaine dernière, la Chambre des représentants a ouvert, en vue de sa destitution éventuelle, une enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait bénéficié des relations d'affaires à l'étranger de son fils Hunter. Les démocrates parlent de distraction. Tout cela intervient alors que les législateurs doivent trouver un accord avec M. Biden pour maintenir le gouvernement ouvert au-delà de la date limite de financement du 30 septembre. Arash Arabasadi nous en dit plus. Le récit, Lionel Gaïma.
Le président Joe Biden s'est rendu à l'église dans son état d'origine, le Delaware, quelques jours seulement après que les républicains de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête en vue d'une procédure de destitution à raison d'une corruption présumée. La Maison-Blanche parle d'un coup politique. La semaine dernière, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, s'est adressé aux médias devant son bureau au Capitole.
Les républicains de la Chambre des représentants ont découvert des allégations sérieuses et crédibles concernant la conduite du président Biden. Prises dans leur ensemble, ces allégations dressent le tableau d'une culture de la corruption.
M. McCarthy a ensuite qualifié ces allégations d'abus de pouvoir, d'obstruction et de corruption qui justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants. Les démocrates estiment qu'il s'agit là d'une pire politique partisane. Le leader démocrate de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, s'est exprimé dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
La Maison-Blanche a coopéré et je pense qu'elle continuera à le faire car il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de fait dans le dossier qui suggère que le président Biden a commis des actes répréhensibles. Il n'y a aucun fait dans le dossier qui suggère que le président Biden s'est engagé dans des délits susceptibles d'être mis en accusation. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le président Biden a enfreint la loi d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une enquête illégitime de mise en accusation.
Les républicains souhaitent obtenir davantage d'informations sur ces allégations. La républicaine Nancy Mace s'est exprimée dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Les faits sont partout. Il y a des SMS, il y a des courriels, il y a des témoins, il y a des dénonciateurs, il y a des réunions, il y a des appels téléphoniques, il y a des dîners. Et vous ne pouvez pas dire il y avait un peu de fumée. Nous n'allons pas suivre le feu.
L'ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, qui fait l'objet de plus de 40 chefs d'accusation dans des multiples affaires judiciaires, se dit favorable à une fermeture du gouvernement si les républicains de la Chambre des représentants n'obtiennent pas ce qu'il appelle un accord équitable sur un projet de loi de dépenses à court terme. Les détails de cet accord équitable restent flous. L'avenir de M. Biden et McCarthy est étroitement lié à cette enquête de destitution. Après l'ouverture d'une enquête, l'ensemble de la Chambre déterminera si le président doit être mis en accusation, ce qui déclenchera un procès au Sénat si le vote est positif. Entre-temps, la Chambre ne dispose que de quelques jours ouvrables pour adopter une résolution permanente à court terme, sous peine de voir le gouvernement fermer ses portes. Certains républicains conservateurs exigent des réductions des dépenses inférieures à celles que le député Kevin McCarthy a acceptées dans le cadre d'un accord budgétaire avec M. Biden au début de l'année.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.